chapitre 18. Monsieur Félix Panton montait à pied lentement l'avenue des Champs-Élysées. En s'acheminant vers l'Arc de Triomphe, il calculait les chances de sa candidature au Sénat. Elle n'était point encore posée, et monsieur Panneton songeait, comme Bonaparte, agir, calculer, agir. Deux listes étaient déjà offertes aux électeurs dans le département. Les quatre sénateurs sortants, Lapratelet, Gobi, Mannequin et Ledru, se représentaient. Les nationalistes portaient le comte de Bressé, le colonel Despoter, M. Leron, ancien magistrat, et le boucher La Folie. Il était difficile de savoir laquelle des deux listes l'emporterait. Les sénateurs sortants se recommandaient aux paisibles populations du département par un long usage du pouvoir législatif et comme gardien de ces traditions, tout ensemble libérales et autoritaires qui remontaient à la fondation de la République et se rattachaient au nom légendaire de Gambetta. Ils se recommandaient par les services rendus avec discernement et par des promesses abondantes. Ils avaient une clientèle nombreuse et disciplinée. Ces hommes publics, contemporains des grandes époques, demeuraient fidèles à leur doctrine avec une fermeté qui embellissait les sacrifices qu'ils faisaient aux exigences de l'opinion sous l'empire des circonstances. Antiques opportunistes, ils se nommaient radicaux. Lors de l'affaire, ils avaient tous quatre témoigné de leur profond respect pour les conseils de guerre, et chez l'un d'eux, ce respect était mêlé d'attendrissement. L'ancien avoué Gobi ne parlait qu'avec des larmes de la justice militaire. L'ancêtre, le républicain des âges héroïques, l'homme des grandes luttes, Lapratelet, s'exprimait sur l'armée nationale en termes si tendres et si émus qu'on eût estimé dans d'autres temps qu'un tel langage s'appliquait mieux à une pauvre orpheline qu'à une institution forte de tant d'hommes et de tant de milliards. Ces quatre sénateurs avaient voté la loi de dessaisissement et exprimé au Conseil général le vœu que le gouvernement prît des mesures rigoureuses pour arrêter l'agitation révisionniste. C'étaient les Dreyfusards du département. Et comme il n'y en avait pas d'autres, ils étaient furieusement combattus par les nationalistes. On faisait un grief à Mannequin d'être le beau-frère d'un conseiller à la Cour de cassation. Quant à Lapratelet, tête de liste, il recevait des injures et des crachats dont la liste entière était éclaboussée. C'était un non-lieu, et il est vrai qu'il avait fait des affaires. On rappelait le temps où, compromis dans le Panama, sous la menace d'un mandat d'arrêt, il laissait croître une barbe blanche qui le rendait vénérable et se faisait rouler dans une petite voiture par sa pieuse femme et par sa fille, habillée comme une béguine. Il passait chaque jour dans ce cortège d'humilité et de sainteté sous les ormes du mail et se faisait mettre au soleil, pauvre paralytique, qui, du bout de sa canne, traçait des raies dans la poussière, tandis que d'un esprit retors, il préparait sa défense. Un non-lieu la rendit inutile. Il s'était redressé depuis, mais la fureur nationaliste s'acharna contre lui. Il était panamiste, on le fit Dreyfusard. Cet homme, se disait, Ledru va couler la liste. Il fit part de ses inquiétudes à Vromsklavlin. Ne pourrait-on, monsieur le préfet, faire comprendre à Lapratelet, qui a rendu de signalés services à la République et au pays, que l'heure a sonné pour lui de rentrer dans la vie privée? Le préfet répondit qu'il fallait y regarder à deux fois avant de décapiter la liste républicaine. Cependant, le journal La Croix, introduit dans le département par Madame Vormsklavlin, faisait une campagne atroce contre les sénateurs sortants. Il soutenait la liste nationaliste qui était habilement formée. M. de Bressé ralliait les royalistes, assez nombreux dans le département. M. Leron, ancien magistrat, avocat des congrégations, était agréable au clergé. Le colonel Despoter, obscur vieillard en soi, représentait l'honneur de l'armée. Il avait donné des louanges aux faussaires et souscrit pour la veuve du colonel Henri. Le boucher La Folie plaisait aux ouvriers à demi-paysans des faubourgs. On commençait à croire que la liste Bressé obtiendrait plus de 200 voix et qu'elle pourrait passer. M. Vormsklavlin n'était pas tranquille. Il fut tout à fait inquiet quand La Croix publia le manifeste des candidats nationalistes. le président de la République y était outragé, le Sénat traité de basse-cour et de porcherie, le cabinet qualifié de ministère de trahison. « Si ces gens-là passent, je saute, » pensa le préfet, et il dit doucement à sa femme, ah, « Tu as eu tort, ma chère amie, de favoriser la diffusion de la croix dans le département. » À quoi Madame Worms Clavelin répondit, « Qu'est-ce que tu veux? Comme juive, j'étais obligée d'exagérer les sentiments catholiques. Cela nous a beaucoup servi jusqu'ici. »« Sans doute, » répliqua le préfet, « mais nous sommes peut-être allés un peu loin. » Le secrétaire de préfecture, M. Lacarel, que sa ressemblance notoire avec Vercingétorix disposait au nationalisme, faisait des pointages favorables à la liste Bressée. M. Worms Clavelin, plongé dans de sombres rêveries, oubliait ses cigares mâchés et fumants sur les bras des fauteuils. C'est alors que M. Félix Panton alla le trouver. M. Félix Panton, frère cadet de Panton de la Barge, était dans les fournitures militaires. On ne pouvait le soupçonner de ne point aimer assez cette armée qu'il chaussait et coiffait. Il était nationaliste, mais il était nationaliste gouvernemental. Il était nationaliste avec M. Loubet et avec M. Valdec-Rousseau. Il ne s'en cachait pas, et quand on lui disait que c'était impossible, il répondait « Ce n'est pas impossible, ce n'est pas difficile, il fallait seulement en avoir l'idée. » Panton nationaliste restait gouvernemental. « Il est toujours temps de ne plus l'être, pensait-il, et tous ceux qui se sont brouillés trop tôt avec le gouvernement ont eu à le regretter. On ne songe pas assez qu'un gouvernement déjà par terre a encore le temps de vous lâcher un coup de pied et de vous casser les mandibules. » Cette sagesse lui venait de son bon esprit et de ce qu'il était fournisseur aux ordres du ministère. Il était ambitieux, mais il s'efforçait de satisfaire son ambition sans qu'il en coûtât rien à ses affaires ni à ses plaisirs, qui étaient les tableaux et les femmes. Au reste très actif, toujours entre son usine et Paris, il avait 3 ou 4 domiciles. La pensée de couler sa candidature entre les radicaux et les nationalistes purs lui étant venue un jour, il alla trouver M. le préfet Worms Clavelin et lui dit « Ce que j'ai à vous proposer, monsieur le préfet, ne peut que vous être agréable. Je suis donc certain à l'avance de votre assentiment. Vous souhaitez le succès de la liste Lapratelet. C'est votre devoir. À cet égard, je respecte vos sentiments, mais je ne puis les seconder. Vous redoutez le succès de la liste Bressée. Rien de plus légitime. De ce côté, je puis vous être utile. Je forme avec 3 de mes amis une liste de candidats nationalistes. Le département est nationaliste, mais il est modéré. Mon programme sera nationaliste et républicain. J'aurai contre moi les congrégations. J'aurai pour moi l'évêché. Ne me combattez pas. Observez à mon égard une neutralité bienveillante. Je n'ôterai pas beaucoup de voix à la liste Lapra. J'en prendrai au contraire un grand nombre à la liste Bressée. Je ne vous cache pas que j'espère passer au 3e tour, mais ce sera encore un succès pour vous, puisque les violents resteront sur le carreau. » M. Worms Clavelin répondit, « Ah, M. Panton, vous êtes assuré depuis longtemps de mes sympathies personnelles. Je vous remercie de l'intéressante communication que vous avez eue l'amabilité de me faire. J'y réfléchirai et j'agirai conformément aux intérêts du Parti républicain en m'efforçant de me pénétrer des intentions du gouvernement. » Il offrit un cigare à M. Panton, puis il lui demanda amicalement s'il ne venait pas de Paris et s'il n'avait pas vu la nouvelle pièce des variétés. Il faisait cette question parce qu'il savait que Panton entretenait une actrice dans ce théâtre. Félix Panton passait pour aimer beaucoup les femmes. C'était un gros homme de 50 ans, noir, chauve, la tête dans les épaules, laid et qu'on disait spirituel. Quelques jours après son entrevue avec le préfet Worms Clavelin, il remontait aux Champs-Élysées, songeant à sa candidature, qui s'annonçait assez bien et qu'il importait de lancer le plus tôt possible. Mais au moment de publier la liste dont il tenait la tête, un des candidats, M. de Terremondre, s'était dérobé. M. de Terremondre était trop modéré pour se séparer des violents. Il était revenu à eux en entendant redoubler leurs cris. « Je m'y attendais, songeait Panton. Le mal n'est pas grand. Je prendrai Gromans à la place de Terremondre. Gromans fera l'affaire. Gromans propriétaire. Il n'y a pas un hectare de cette terre qui ne soit hypothéqué. Mais cela ne lui nuira que dans son arrondissement. Il est à Paris. Je vais le voir. » À cet endroit de sa pensée et de sa promenade, il vit venir Madame de Gromance dans un manteau de vison qui lui tombait jusqu'aux pieds. Elle restait fine et mince sous l'épaisse toison. Il la trouva délicieuse ainsi. « Ah, je suis charmé de vous voir, chère madame. Comment va monsieur de Gromance ?»« Mais bien. » Quand on lui demandait des nouvelles de son mari, elle craignait toujours que ce ne fût avec une ironie de mauvais goût. « Voulez-vous me permettre de faire quelques pas avec vous, madame? J'ai à vous parler de choses sérieuses. D'abord, dites... « Votre manteau vous donne un air farouche, l'air d'une charmante petite sauvage. Ce sont là les choses sérieuses que... »« J'y viens. Il est nécessaire que M. de Gromance pose sa candidature au Sénat. L'intérêt du pays l'exige. M. de Gromance est nationaliste, n'est-ce pas ?» Elle le regarda avec une légère indignation. « Ce n'est pas un intellectuel, bien sûr. »« Et républicain ?» « Mon Dieu, oui, je vais vous expliquer, il est royaliste, alors vous comprenez. »« Ah, chère madame, ces républicains-là sont les meilleurs. Nous inscrirons le nom de M. de Gromance en belle place sur notre liste de nationalistes républicains. »« Et vous croyez que Dieudonné passera ?»« Madame, je le crois, nous avons pour nous l'évêché et beaucoup d'électeurs sénatoriaux qui, nationalistes de conviction et de sentiment, tiennent au gouvernement par leurs fonctions, leurs intérêts. Et dans le cas d'un échec qui ne peut être qu'honorable, M. de Gromance peut compter sur la reconnaissance de l'administration et du gouvernement. Je vous le dis en grand secret, Worms Clavelin nous est favorable. » « Alors, je ne vois pas d'inconvénient à ce que Dieudonné... Ah, vous m'assurez de son acceptation. Voyez-le vous-même. Il n'écoute que vous. Vous croyez ? J'en suis sûr. Alors, c'est entendu. Mais non, ce n'est pas entendu. Il y a des détails très délicats qu'on ne peut pas régler ainsi dans la rue. Venez me voir. Je vous montrerai mes baudouins. Venez demain. » Et il lui souffla l'adresse à l'oreille, le numéro d'une rue déserte et languissante dans le quartier de l'Europe. Et c'est là qu'à une distance respectueuse de son appartement légal et spacieux des Champs-Élysées, il avait un petit hôtel construit naguère pour un peintre mondain. C'est donc bien pressé? Si c'est pressé, songez donc, chère madame, qu'il ne nous reste que 3 semaines pleines pour faire notre campagne électorale et que Bressé travaille le département depuis 6 mois. Mais est-ce qu'il est absolument nécessaire que j'aille voir vos... Mes baudouins, c'est indispensable. Croyez-vous? Écoutez... « Et jugez-en vous-même, chère madame. Le nom de votre mari exerce un certain prestige, je ne le nie point, sur les populations rurales, principalement dans les cantons où il est peu connu. Mais je ne puis vous cacher que, lorsque j'ai proposé de l'introduire sur notre liste, des résistances se sont produites. Elles subsistent encore. Il faut que vous me donniez la force de les vaincre. Il faut que je puise dans votre amitié cette volonté irrésistible qui... Enfin, je sens que si vous ne m'accordez pas toute votre sympathie, je n'aurai pas l'énergie nécessaire pour... Mais ce n'est pas très correct d'aller voir vos... Oh, à Paris. Si j'y vais, ce sera bien pour la patrie et pour l'armée. Il faut sauver la France. C'est mon avis. Faites bien mes amitiés à Madame Panton. Je n'y manquerai pas, chère madame. À demain. »